On a commencé la semaine dernière le chapitre 6. Dans le chapitre 6, rapidement, on avait expliqué que de la même manière que dans l'âme divine, il y avait une structure qui était très claire. D'accord ? Je voudrais autant faire un petit résumé. De la même manière qu'on avait expliqué que dans l'âme divine, il y avait une structure qui était très claire, à savoir la structure intellectuelle, la structure sentimentale, et que il y avait les trois facultés intellectuelles, Chochma, Bina, Da'at, etc., et qu'il y avait une structure. On a expliqué que de la même manière, dans notre âme animale, qui est elle au fond de nous, et qu'on va prendre Bezrat Hashem plusieurs semaines pour développer ce qui se passe au fond de nous, on a expliqué qu'en vérité, il y a une structure. Et une structure qui va nous accompagner toute notre vie. Toute notre vie. Je veux juste reprendre une petite idée de la semaine dernière. D'accord? Pour ceux qui n'étaient pas là, ou pour se remettre dans le bain. On avait expliqué qu'en vérité, les gens, ils pensent qu'avec le temps, ils changent. La preuve, quand ils étaient petits, ils s'énervaient pour un bonbon. Après, quand il a grandi un peu, il s'énerve pour d'autres choses, d'accord? Et quand il grandit encore un peu, il s'énerve pour encore d'autres choses. Donc il dit, voilà, j'ai grandi, j'ai mûri. D'accord? On pense qu'on a mûri. En vérité, on a expliqué la semaine dernière qu'en vérité, la personne n'a pas mûri d'un iota. Oui. Seulement, qu'est-ce qui a changé? Les besoins ont changé. Et ce qu'il considère être important a changé. Quand il était petit, comme son cerveau n'était pas très développé, donc ce qu'il considérait être important, c'est quoi? C'est le bonbon. Après, quand son cerveau se développe un peu plus, il comprend que c'est pas le bonbon, c'est les jouets, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est qu'en vérité, la personne, même que des fois quand on croit qu'on change, en vérité, on change pas. Et pour vraiment changer, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a une structure interne qui nous accompagne toute notre vie. Ça veut dire quoi? Une personne qui, par exemple, est plutôt coléreux, toute sa vie sera coléreux. Ce sera un challenge qu'il aura toute sa vie. Il devra apprendre à vivre avec, il devra apprendre à gérer ça. Même s'il va dire, oui, mais t'as vu, quand j'étais petit, je m'énervais pour un bonbon, maintenant je m'énerve pour d'autres choses. Ça n'a rien à voir. C'est les besoins et la forme qui a changé. Mais le fond est toujours resté le même. Donc pour l'Admor HaZaken, c'était important d'expliquer ça, pour nous expliquer que de la même manière que dans l'âme divine, on a une structure, de la même manière dans l'âme animale, il y a une structure, et on est avec cette structure. Une maman sera capable de dire, quand le bébé était dans son ventre, elle était capable de dire, celui-là, quand il était dans son ventre, déjà je savais qu'il allait être un nerveux, ou que c'est un endormi, ou que c'est un... etc. La mère, elle sait tout de suite.
Ah bon?
Bien sûr. Tout de suite.
Comment il réagit?
La mère, juste comment il réagit. Est-ce que c'est un endormi? Est-ce qu'il est vif? Est-ce qu'il aime bouger? Est-ce qu'il est plutôt carré? Elle sait tout, la mère. Elle le ressent dans son ventre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qu'on a expliqué la semaine dernière dans le Tanya, on a expliqué que la structure interne qu'il y a de l'âme animale, de la même manière qu'il y a une structure de l'âme divine, il y a une structure interne de l'âme animale qui nous accompagne toute notre vie et qui va s'adapter à la situation. Quand je suis petit, je m'énervais pour des petites choses. Quand je suis grand, je m'énervais pour des grandes choses. Mais la structure est la même, c'est le même moteur. Je rappellerai juste que le Maharal de Prague a dit, on avait dit dans le commentaire la semaine dernière, qu'il avait dit que dans la vie, il y a trois phases. Il y a la phase de la jalousie, il y a la phase de la recherche des plaisirs, et il y a la phase de la recherche des honneurs. Trois grandes phases dans la vie. Quand on est jeune, c'est la jalousie qui est le moteur de la personne. Jusqu'à, je sais pas, 20, 25 ans. Après, qu'est-ce qui est le moteur de la personne? C'est les plaisirs.
C'est déjà la jalousie.
D'accord? Jalousie, c'est-à-dire vouloir dépasser les autres, montrer à l'autre qu'on est plus fort. La jalousie. D'accord? Être mieux que quelqu'un d'autre. C'est ça tu vois, par exemple, les élèves qui sont dans l'école en face. Qu'est-ce qui fait, quel est leur challenge? Toujours dépasser l'autre. Être mieux que l'autre. D'accord? Dans tout. Mais le challenge, c'est dépasser l'autre. Après un moment, dans la vie, il y a un déclic qui se passe. Et à un moment, c'est plus ça ce qui est ton challenge. C'est quoi ton moteur? Ton moteur, c'est que tu dis, maintenant, j'ai envie de chercher les plaisirs. Donc les plaisirs. Les plaisirs, chacun, il va trouver ses plaisirs. D'accord? Des plaisirs permis, des plaisirs interdits, mais le moteur, c'est les plaisirs. Et après, quand on vieillit un peu plus, d'accord, je sais pas, quand on arrive, je sais pas, à 55, 60 ans, on peut pas donner d'âge, d'accord, ça dépend chacun, peut-être plus. Je donne pas d'âge, je veux pas que Jackie me regarde comme ça.
Ouh là là, non, on m'a dit 50 ans, votre âge.
Il a 40 ans, Jackie.
Ah oui, alors, il est pas concerné.
Merci à tous, je suis en 83e année.
Mazal tov. Donc, quand on est déjà plus âgé, alors, mais en vérité, tout ça, c'est dans la tête. Quand on est plus âgé, alors c'est quoi le moteur d'une personne? C'est le kavod. Est-ce qu'on m'a dit comme si? Est-ce qu'on m'a dit comme si? Est-ce qu'on m'a dit comme si? Et c'est comme ça. Mais dit le Maharal de Prague, en vérité, d'accord? Par exemple, ouais. Ça veut dire, qu'est-ce que les gens ont dit de moi? Tu comprends? Dans la première phase de la vie, c'est je veux dépasser les autres. Deuxième phase, c'est je veux kiffer. Une fois que j'ai compris que ni je vais dépasser les autres et ni je vais kiffer, maintenant je dis au moins je veux qu'on me parle bien. Voilà, c'est tout. Je veux qu'on me parle
on
bien.
On peut pas avoir les trois en même temps.
On peut avoir, mais de manière générale, c'est trois grandes phases dans la vie. D'après ce que le Maharal a dit, on a expliqué la semaine dernière, qu'en vérité, on peut avoir les trois en même temps, on peut avoir un peu des trois, mais de manière générale, voilà, il y a toujours un élément qui est prédominant, mais a dit le Maharal qu'en vérité, le moteur est le même. C'est quoi le moteur? Il y a un moteur au fond de moi, et ce moteur, il me dit, quand il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas comme ce que tu voulais, tu t'énerves. C'est tout. Maintenant, quand je suis petit, ce qui m'énerve, c'est que les autres m'ont dépassé. Quand je suis plus âgé, ce qui m'énerve, c'est que j'ai pas eu ce que je voulais. Quand je suis un peu plus âgé, ce qui m'énerve, c'est qu'on m'a pas donné le respect qu'on me devait. Mais ça c'est la forme qui change. Ah, mais le fond, c'est
tout le monde ça.
Tout le monde.
Soit Loubavitch.
Tout le monde, c'est une base. C'est l'homme. L'homme fait comme ça.
Non mais je... non. Non, je sais pas. C'est
tout le monde est fait comme ça. C'est comme ça.
Pas Manny. C'est
le match. Quoi? La compétition. Je pourrais te répondre à cette question quand je serai plus âgé. Pour l'instant, je suis pas encore à la troisième phase. Je suis à la deuxième, mais je suis pas à la troisième encore.
Le match.
Bonsoir tout le monde.
Voilà. Donc en tout cas.
C'est arrivé après les questions, Charles.
C'est arrivé après. C'est fini, c'est fini.
Il y a pas de dash, il y a pas de dash depuis. Ok. Donc pourquoi j'explique ça? Parce que la semaine dernière on a expliqué que justement dans l'âme animale il y a une structure. Cette structure elle nous accompagnait toute notre vie. Maintenant pour développer ça. Pour développer cette structure, on a dit qu'il faut de manière générale développer. C'est pas qu'on est tous les mêmes. C'est qu'on a une structure qui nous accompagnera toute notre vie et qu'il faudra apprendre à vivre avec. Donc ça veut dire apprendre à vivre avec. C'est comme une personne, par exemple, Dieu préserve, il est né, il boite. Dieu préserve, toute sa vie il va boiter. Seulement il va apprendre à vivre avec. Donc il va apprendre, par exemple, à le cacher. Il va apprendre à contourner le problème. Mais le problème sera toujours là. De la même manière. On a des défauts qui sont en nous. Ces défauts, on pourra apprendre à travailler avec. Ça veut dire à ne pas les faire ressortir, à apprendre à les cacher, à apprendre à les étouffer, etc. Mais ils seront là. Et d'une manière ou d'une autre, ils finiront toujours par ressortir. C'est très important ce que dit Alain Morazakan ici, parce que dans la suite, dans le chapitre suivant, il dira que ça arrive très souvent qu'une personne, il se travaille pendant des années sur quelque chose.
Donc finalement, on est condamné.
Non, pas du tout.
Ah oui.
Non, pas du tout. Écoute bien ce que je veux dire.
On peut changer.
Ce qui peut arriver, c'est qu'une personne va travailler pendant des années sur quelque chose. Des années. Et des fois, 4, 5, 10 ans plus tard, pac, un truc qu'il croyait déjà réglé, il revient. Tu te dis, mais c'est pas possible, je croyais que j'avais changé. C'est pas possible, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est parce qu'en vérité, la nature reste la même. Seulement, on apprend à travailler. Alors, tu poses une bonne question, Michael. Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas changer? La réponse est non et oui. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un très très grand niveau, qu'on va appeler ça, enfin on expliquera en chapitre 15 que Dieu peut te greffer la neshama d'un tzaddik pour que ça change, mais c'est très 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 rare, et ça arrive pratiquement jamais à personne, d'accord? Donc ça veut dire que c'est pas qu'on est condamné, c'est qu'on est condamné à vivre avec notre caractère. De la même manière que j'ai un corps, je suis condamné à vivre avec ce corps.
Oui.
Et que même si, par exemple, mon nez ne me plaît pas, je peux rien faire. Alors, regardez mon nez maintenant. D'accord, tu peux, une personne, il peut faire ce que tu veux, il sera là. Elle peut faire ce que tu veux, il sera là. Et tu pourras, de la même manière, d'accord, de la même manière, une personne qui a une nature, cette nature l'accompagnera toute sa vie. Mais, encore une fois, on va apprendre à travailler avec, par exemple, une personne qui est coléreux, avec le temps, il va apprendre à ne pas se mettre dans des situations qui l'énervent. Donc, c'est un travail. C'est un travail. Mais, ça change pas que la nature est toujours là. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des cas qui sont, dans lesquels, voilà, bon, il croyait qu'il contrôlait et qu'il maîtrise plus, et pac, là, il explose. Chacun, il va retrouver ça dans sa nature. Il y a des choses qu'on croit qu'on change, mais en vérité, on ne change pas. Pourquoi j'explique ça maintenant ici? Parce que, en vérité, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il faut des... Ouais.
La porte n'est pas bon.
J'ai mis un objet pour bloquer, je crois.
Tu veux voir?
Oui, vas-y. Ouais. Non, je crois qu'il y a un objet qui bloque.
Attends.
Ah, va voir.
Ah bon? C'est bon? Allez, on y va. Ok. Allez, messieurs, c'est bon, c'est fermé. Bonsoir. Ok. Donc maintenant, pour expliquer ça, pour expliquer cette notion, allez, rabotaille, on continue. Allez, monsieur Strigala, on a commencé, hein. Eh ben, pas de problème.
Ah, c'est bon, en fait, il y avait un truc sur le
bouton. Voilà, ce que je
veux dire. C'est le bout du tapis qui est
sur le. Ok. Ah, on a dû, on a des surprises là aujourd'hui.
Ah, oh, ça c'est bien, ça. Ça c'est, le, ça, ça c'est très bien.
C'est la caisse du cours.
Razak.
La clim, là.
Razak.
Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, messieurs, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a ouvert à partir de la semaine dernière, sous l'initiative de Jackie Cohen et de David, on a ouvert la caisse du cours. D'accord. Donc tout celui qui veut peut participer, il suffit de donner l'argent à David et David il nous gère tout ça. Et quand la caisse se vide, il nous tiendra au courant.
Ok, d'accord.
Voilà. La vérité, je préfère pas qu'elle caisse. Ok.
Pourquoi, pourquoi David?
Il veut payer, il veut payer.
Je veux pas être.
Demandez oui, je vous prie. Oui, oui, oui.
Ok.
Mais bon, mais il n'y a pas de problème, il y a quand même une caisse.
Donc je continue. En tout cas, ce qu'on a expliqué, c'est que cet âme animal a une structure. Pour comprendre la structure de cet âme animal, il faut comprendre de manière générale quelle est la définition du bien et du mal dans la Torah. De manière générale, si on pose la question à n'importe quelle personne, d'après toi, quelle est la définition du bien et du mal, ben il va dire le bien si on fait des bonnes choses, le mal si on fait des mauvaises choses. Donc évidemment, ça va de soi. Rabot, c'est un peu fin ce qu'on va dire, il faut se concentrer là. Si on rate ça, après, vous ratez la suite du gourou. C'est bon ? Est-ce que tout le monde est concentré ? Je voulais vous servir parce que si vous allez rater ça, vous allez rater la suite du cours. Alors voilà, on y va. Donc, ce qui explique ici l'Admor HaZaken, c'est que pour comprendre qu'est-ce que c'est l'âme animale, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est la différence d'après la Torah entre le bien et le mal. Les gens, ils pensent que le bien et le mal, beaucoup de gens pensent qu'en vérité, il y a trois domaines. Il y a le bien, le mal et ce qui est neutre. Beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ça veut dire quoi ? Il y a le bien, faire les mitzvot, faire des bonnes actions, faire des actes de bienfaisance. Il y a le mal, frapper quelqu'un, tuer quelqu'un, voler, d'accord, faire des bêtises. Il y a ce qui est neutre. Beaucoup de gens pensent comme ça.
Oui, c'est
ce qui est neutre, ça veut dire quoi ?
Manger.
Ça veut dire manger, boire, dormir, aller au boulot. Bah oui. Plein d'éléments qui sont neutres. C'est ni bien, ni bon, ni mauvais. D'accord ? On a commencé à expliquer, on a fait que commencer à expliquer la semaine dernière. L'Admor HaZaken a expliqué que c'est une erreur. Qu'en vérité, il n'y a pas trois domaines, il n'y a que deux domaines. Il y a le bien, et la deuxième catégorie, c'est tout ce qui n'est pas bien. Pourquoi ? Comment on peut expliquer
pas
ça ?
Tout ce qui n'est pas
voilà,
bien.
Tout ce qui n'est pas bien. C'est quoi la logique qui est derrière ? Comment on peut expliquer qu'il y a le bien et tout ce qui n'est pas bien ? Par exemple, si je vais au boulot, je vais manger, je vais dormir, qu'est-ce qu'il y a de... Pourquoi tu me dis que ça, c'est dans la même catégorie que le mal ? Et c'est là qu'on a commencé à expliquer, mais on a fait que commencer à expliquer la semaine dernière. On a dit que, en vérité, il y a ce qui est annulé à Kadosh Baruch Hu et ce qui n'est pas annulé à Kadosh Baruch Hu. Je répète, ce qui est annulé à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on va expliquer justement aujourd'hui, ça veut dire, il y a ce qui est annulé à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que le fait que je dis que je fais passer la volonté d'Akadosh Baruch Hu avant la mienne, et il y a ce qui n'est pas annulé à Kadosh Baruch Hu. Tout le reste qui n'est pas annulé à Kadosh Baruch Hu. Je vous donne un exemple très simple pour illustrer ce que je veux dire. J'ai devant moi un verre de coca. Je vais le boire, Bezrat Hashem. Pourquoi je vais le boire? Non, attendez, répondez-moi honnêtement à la question. Pourquoi je veux boire ce verre de coca?
Vous avez décidé de le boire.
Pour avoir de la force.
Pourquoi je veux le boire? Répondez-moi honnêtement. Racontez-moi des Sainte Ménique. J'ai envie, c'est tout. J'ai envie. Pourquoi pas, puisque j'ai envie, pourquoi pas tant qu'à faire, je vais faire une bracha dessus. D'accord? Mais la raison pour laquelle je le bois, merci. Ce que tu veux. La raison pour laquelle. Ça, je le bois pour Dieu, ça.
Termine,
ouais, ça
suis un bébé
à la
fin.
Oui,
un TGV.
Raïm. C'est quoi un TGV ?
TGV, c'est tequila, vodka,
mocha.
Vodka.
Ah, je suis un TGV. Bonsoir.
Ouais, un millimètre.
Je ne sais pas mesurer.
Non.
Bon, alors les Raïm.
C'est trop sûr, c'est trop suavisé. Qui veut d'abord ?
Tout le monde a dit les Raïm ?
David.
Merci.
Chaim. Alors, Rabotai, il faut se concentrer là, hein, on est déjà en retard. Chaim.
Bonsoir.
C'est bon ?
C'est bon.
Allez, Rabotai, le Chaim. Tout le monde a dit le Chaim ?
J'adore ça. Oui, j'aime bien ça.
Il adore ça.
Ah bon ?
Il y a bénédiction, je
sais pas si. Oui,
il adore.
Ok. Donc je reprends. Je reprends ma question. Monsieur Benita, question qui est pour vous. J'ai pris le verre de coca qui est devant moi. Pourquoi je le prends ?
Pour le qui ?
Parce que j'ai envie. Pourquoi j'ai envie ?
Vous avez un besoin.
Non, c'est pour...
Parce que j'aime bien le coca. C'est pour ça que je l'ai pris. Est-ce que je l'ai fait pour Dieu ? Non, je ne l'ai pas fait pour, je l'ai fait pour moi.
Mais on peut l'élever la chose.
D'accord, très bien, je peux l'élever, mais est-ce que je l'ai fait pour Dieu? Je ne l'ai pas fait pour Dieu. Du coup, ce verre que j'ai pris dans ma main, il passe dans la catégorie B. J'ai pas dit que c'est du mal, mais c'est pas du bien. Parce qu'il va expliquer aujourd'hui que la définition du bien dans la Torah, c'est tout ce qui est fait pour Dieu. Attends, laisse-moi faire s'il te plaît, il faut laisser développer. Tout ce qui n'est pas pour Akadosh Baruch Hu rentre dans une deuxième catégorie, qui n'est pas forcément mauvaise. Ça, on peut faire des très bonnes choses, mais c'est pas du bien. Parce que le bien absolu, d'après la Torah, c'est quoi? Et la Gemara Zaken va donner des preuves talmudiques, que le bien absolu d'après la Torah, c'est quoi? C'est ce qui est fait pour Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui n'est pas fait pour Akadosh Baruch Hu rentre dans une deuxième catégorie, qui s'appelle la catégorie B. Là, ça nous rappelle un autre sujet qu'on avait développé très rapidement à la fin du chapitre 1. On avait dit qu'en vérité, la vraie bonté existe que chez les juifs. Et chez les juifs parmi les nations. Mais on a dit qu'un goy, entre guillemets, standard, ne sait pas ce que c'est la vraie bonté. Pourquoi? C'est un peu dur ce qu'on avait dit. Pourquoi? Parce qu'on a dit, parce que finalement, tout ce qu'on fait, on le fait par intérêt. Et être capable de faire quelque chose sans intérêt, c'est impossible pour une personne qui n'est pas juive, pour une personne normale. Le juif, c'est pas que tout ce qu'il fait, c'est sans intérêt. Mais il a la capacité de trouver en soi les forces de le faire sans intérêt. Mais de manière générale, tout ce qu'on fait dans la vie est toujours des intérêts.
Bien sûr, c'est sûr.
Donc, si je le fais pour intérêt, c'est-à-dire je l'ai pas fait pour Dieu, je l'ai fait pour moi. Donc, si je l'ai fait pour moi, dans ce cas-là, je peux pas appeler ça du bien. Parce que le bien absolu d'après la Torah, c'est quoi? C'est tout ce qui est fait pour Akadosh Baruch Hu.
Mais à partir du moment où vous le prenez, c'est pour vous. Et après, vous faites la balecha, ça devient pas pour Dieu.
Ça change.
On le sanctifie quand on mange.
Je vais vous donner un exemple, monsieur Benita. Imaginez par exemple que vous voulez descendre. Vous jouez au loto des fois par exemple?
Non, jamais.
Loto, tiercé, truc comme ça, non? Jamais.
Non, je joue pas. Non.
Vous allez acheter un journal. Ça vous arrive d'acheter un journal?
Oui.
Voilà. Imaginez que vous êtes chez vous à la maison. Écoutez bien ma question. Vous êtes chez vous à la maison et vous décidez d'aller acheter un journal en bas de la maison, à Géant là-bas.
Ouais.
Et que votre femme vous dit: ah, tu vas acheter le journal? Si tu vas déjà là-bas, est-ce que tu peux m'acheter un journal à moi aussi?
Oui.
Vous allez lui acheter le journal.
Oui.
Très bien. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes allé pour votre femme?
Non.
Non, pas du tout. Vous êtes allé pour vous. Oui. Mais tant qu'à faire, puisque vous étiez déjà là-bas et qu'on peut rendre service, on va rendre service. Est-ce que c'est pas quelque part la même chose quand je prends un verre de coca et que je fais une bracha? Est-ce que c'est pas un peu la même chose? Je dis, mon verre de coca, je le voulais. Tant qu'à faire, puisque dans le chemin il y a une bracha, on prend la bracha. Mais c'est pas pour la bracha que je prends mon verre de coca.
De toute façon, pour toi, là, c'est pareil.
Le journal, c'est pour grave. Non, bien sûr que non. Mais
bien
bon.
Bien sûr que tu dois avoir bracha, monsieur Bilita. C'est très bien qu'il faut faire son bracha de
parler. Pardon, mais enfin bon.
C'est pour ça qu'on boit 100 verres de coca.
Oui, j'ai vu, c'est pas très bien.
Comparer.
L'exemple est bien, l'exemple est très bien.
Bah oui. Merci. Merci.
Comparer la bracha avec un verre de coca ou le journal, bon.
Ben,
si, c'est pas normal, c'est
images.
C'est le principe.
Alors, dans les mots. Vehen hem. Donc, on s'est arrêté à Rabotai. Pardon, excuse-moi.
Ah, je suis perdu, moi.
Alors, Vehen kol adiburim.
Page 20, 21.
Voilà, Vehen.
Page 20, page 20.
Vehen kol adiburim, vechol amachashavot. Donc, on est à l'étude du site Evet.
Ah oui, d'accord, ok.
Vehen kol adiburim, vechol amachashavot. Toutes les paroles et toutes les pensées. Asher lo lachem hema velirtsono velaravodato. Toutes les paroles et toutes les pensées qui ne sont pas pour Hachem, qui ne sont pas pour la volonté de Dieu et qui ne sont pas liées au service de Dieu. Chez Zeu Pirouche lachem titra achara. Ça, c'est le sens quand le Zohar nous parle. Le Zohar, quand il nous parle de cet autre côté, il dit pas qu'il y a le côté du bien et le côté du mal. Non. Il dit, il y a le côté du bien et il y a l'autre côté. C'est pas le côté obscur et le côté, comment il s'appelle, éclairé. Non. Zohar te dit, il y a un côté qui est le côté de la Kdusha, et l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? Pirouche, ça veut dire. Tzad Acher, un autre côté. Sheino, on va faire quelques lignes après, je vais commenter tout de suite. Sheino Tzad HaKdusha, qui n'est pas le côté de la Kdusha. Mais Tzad HaKdusha, Eino Ela Amshacha, Ashra'a Ve Amshacha Mikdushato Shel HaKadosh Baruch Hu. Le côté de la Kdusha, c'est quoi? Le côté de la Kdusha, c'est tout ce qui est lié à la Kdusha d'HaKadosh Baruch Hu. Écoutez bien ce qu'il va dire ici. Ve'ein akadosh baruch hu shore, ela al davar shebatel etzlo itbarech. Akadosh baruch hu ne peut résider seulement sur une chose qui est annulée à lui. Ça veut dire, comme on avait dit la semaine dernière, quelqu'un qui est orgueilleux. Ça a beau être un grand rabbin, ça a beau être quelqu'un qui connaît parfaitement la Torah. Du fait qu'il est orgueilleux, akadosh baruch hu ne réside pas en lui. Vous entendez? Vous êtes moi ou vous? Non? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Écoutez, on a dit qu'on va mettre des pauses pour les questions. Je peux pas m'arrêter à chaque fois. Voilà, pas de problème. Ok. Donc je reprends. D'accord ? Je fais une pause dans 5 minutes. Or, je reprends. Nous avons la Kedusha et tout ce qui n'est pas la Kedusha, ce qu'on appelle l'autre côté. C'est quoi la Kedusha ? La Kedusha, c'est ce qui est fait pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Dieu ne peut résider seulement dans ce qui est annulé à lui. En hébreu, comment on dit annulé ? Bitul, batel. Tout ce qui est annulé à Akadosh Baruch Hu. Il va expliquer tout de suite. Ben des fois le mamash que malachim et dionim, soit vraiment comme les malachim qui sont vraiment annulés à Kadosh Baruch Hu, par exemple. Il y a des malachim qui s'appellent les séraphim. Vous savez ce que ça veut dire les séraphim? Séraphim. Dans le mot séraphim, il y a le mot séréfa. On le dit tous les jours, les séraphim. C'est quoi les séraphim? C'est ceux qui se brûlent constamment. C'est-à-dire tellement ils s'annulent devant un Kadosh Baruch Hu, qu'ils sont constamment en train de s'auto-détruire, de se brûler devant un Kadosh Baruch Hu, de s'annihiler devant un Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est les malachim. Nous, on n'est pas capable de le faire, parce que nous, on est là, Baruch Hashem, Dieu veut, au contraire, qu'on soit vivant en chair et en os. Mais, ben bekoar, bechol ish Israël le mata, shebekochol yot batel mamash le gabe, kadosh baruch hu v'msirat tafshol kidushat Hashem. Il dit en vérité, un juif a cette capacité en lui. Regardez. Imaginez, vous prenez n'importe quel juif, même un juif qui est très très loin de la Torah. Tu lui dis, si un jour maintenant, on te dit, soit tu te prosternes devant l'idole, soit on va te tuer. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va se laisser tuer. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle volonté il a fait passer en priorité? Ma volonté ou la volonté d'Akadosh Baruch Hu? La volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'un juif a en soi cette force que la volonté de servir Akadosh Baruch Hu est encore plus forte que la volonté primaire. C'est-à-dire que l'instinct de survie, normalement, c'est ce qu'il y a de plus fort chez une personne. L'instinct de survie, on ne peut même pas le contrôler, normalement. Il est incontrôlable. L'instinct de survie fait que la personne, dès qu'il sent qu'il va mourir, il fait des choses que c'est ni le cerveau qui parle, c'est ni le cœur qui parle, c'est un instinct de survie qui est là et qui se réveille. Et on peut rien faire. Comment c'est possible que chez le juif, et on a vu, c'est les histoires qui sont passées, des dizaines malheureusement, et même des centaines d'histoires comme ça, de juifs qui ont donné leur vie pour Akadosh Baruch Hu, et qui sont restés à n'importe quel moment, ils auraient dit « Stop, je m'arrête, ça, je me rends ». Ils sont pas rendus, ils ont donné leur vie. Comment c'est possible? Comment ils ont pu faire? Comment c'est possible? Ça, c'est des témoignages qu'on a eu de juifs et de non-juifs qui l'ont fait. Comment ils l'ont fait? La réponse, c'est parce que chez un juif, il a cette capacité de faire Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, de s'annuler à Akadosh Baruch Hu, et donc de faire en sorte que la volonté de Akadosh Baruch Hu passe avant ma volonté. Seulement deux secondes, seulement. Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que le juif, en général, il éveille ça seulement dans les moments extrêmes de sa vie. Par exemple, même les juifs sont très loin de la Torah, dès qu'il va arriver le jour de Kippour, là il va dire « Oui, bien sûr, on va tout faire pour Dieu ». Ce juif qui est très loin aussi, dès qu'on va arriver à un moment comme ça dans lequel on va lui dire « Tu te prosternes ou on va te tuer », Chas v'shalom, d'accord ? Même ce juif-là. Alors là, à ce moment-là, dans un moment extrême de sa vie, là il va sentir qu'il va se réveiller. Là il va sentir qu'il va se réveiller, il va sentir que sa neshama va partir. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça. Dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, la neshama n'est pas annulée à Kadosh Baruch comme ça aurait dû être. Donc, pour résumer, après on s'arrête tout de suite les questions. Nous avons, contrairement aux idées reçues qui disent que nous avons trois catégories, le bien, le mal et ce qui est au milieu, en vérité, nous n'avons pas trois catégories, nous avons que deux catégories. Le bien et tout ce qui n'est pas bien. C'est quoi la définition du bien? La définition du bien, c'est ce qui est annulé à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on fait pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui n'est pas pour la volonté de la Kadosh Baruch Hu que je fais pour ma volonté, dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans la catégorie du bien absolu. Donc on va marquer une pause, et après la Admor HaZaken va développer, va étoffer cette idée. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui.
Allez-y.
Donc, on sait que...
Approchez-vous, Michael.
On sait que...
Il y a de la place, venez. Il y a de la place. Hein?
Ok.
Allez-y. Alors allez-y, les questions,
Mechavod. On va louer le palais des congés. On sait que le juif, il a la possibilité de faire des mitzvot que le séraphim, il n'a pas la possibilité de faire.
Oui.
C'est-à-dire que le fait que un juif fasse des mitzvot, ça le positionne de manière un peu plus élevée, entre guillemets,
oui.
que les anges.
Oui.
D'un autre côté, on voit que Rabbi Akiva, sa vie, ce qu'il voulait, c'était mourir à Kiddush Hashem. Donc en faisant Messirut Nefesh. C'est comme ça qu'il est niftar. En extase, avec tout un tas d'horreurs qui lui sont arrivées, mais il est mort en extase, sacrifié pour Dieu. Dans ce cas-là, si tu te places comme ça, est-ce qu'il a eu raison, est-ce qu'il a eu...
La réponse est très simple. C'est ni raison ni tort. Tant qu'on est vivant, il faut rester sur terre. Mais la neshama de Rabbi Akiva, qui est comme les grandes neshama de Tzadikim, il sent que le corps est un frein pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il cherche constamment à quitter ce frein.
C'est un...
D'accord? C'est comme, je te donnais un exemple, c'est comme une personne, par exemple, qui transpire. et qu'il y a un vêtement qui le fait transpirer encore plus. Donc il fait tout pour se débarrasser de ce vêtement parce qu'il n'en peut plus, ça l'étouffe. Donc de la même manière, pour un tzaddik, c'est une personne justement qui sent que son corps le freine et que son corps est constamment en train de lui dire « Non, mais je veux pas ci, mais je veux pas ci. » Et sa neshama, elle sent que ça le dérange. Il dit « Moi, je veux pas de ce corps. Moi, je veux aller chez Akadosh Baruch Hu. Je veux faire que ce que Dieu il veut, pas que ce que moi, je veux. Je veux même pas avoir de volonté propre. » C'est ça le Messirut Nefesh.
Ça fait partie de la volonté de Dieu qui lui a donné ce corps pour justement...
C'est vrai. C'est pour ça que tant qu'on est là, on est là. Mais on peut comprendre qu'il y a cette volonté de quitter, de se débarrasser de ce frein. Parce qu'on sent que c'est un frein. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bien sûr, c'est Dieu qui a donné cette enveloppe. On n'est pas en train de dire que c'est pas, on n'est pas en train de dire qu'on est des mécréants et que.
C'est Dieu qui.
Ou alors faut donner des noms.
Il faut pas. On dit par exemple c'est péché de faire des tatouages ou de percer le corps.
Oui.
Justement, il faut prendre soin du corps. Enfin bon. Dans un certain sens.
Alors, je comprends la question. Il faut bien comprendre. Là, quand on parle du bien et du mal, on ne parle pas du bien et du mal par rapport au jugement. Est-ce que je serai jugé comme un tzaddik ou comme un rachat? Ça, c'est pas de ça que je parle. Parce que ça, évidemment, quand on arrivera en haut, Dieu il nous jugera par rapport à la majorité des actions qu'on a fait. Je ne parle pas de ça. Je parle de la définition absolue du bien et du mal. Que je peux être quelqu'un... Écoute bien ce que je veux dire. Je peux être quelqu'un qui, sur le plan de l'action, je suis irréprochable. Rien à reprocher. Mais concrètement, tout ce que je fais, je le fais pour moi. Tu sais sur qui on dit ça? Sur une personne comme Noach. Comment ça se fait qu'il y a la différence entre Noach et Avraham, Avinu et Moshe Rabbeinu? Noach, pendant 120 ans, il a construit la Teva. 120 ans, il a construit la Teva. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 120 ans? Les gens, ils le voyaient. Imaginez une personne qui vient en plein milieu d'ici de la place. Il construit un bateau. On l'a pris pour un fou. Donc on se met à lui parler. Il a ouvert un stand. Les gens, ils lui disent ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Il dit oui, vous savez, Dieu va envoyer un déluge, etc. Il n'a pas ramené une personne. Pas une personne, il a réussi à ramener. Une. Même pas une, il a ramené. Alors qu'Avraham, il en a ramené par milliers. Attends, une seconde. Le Midrash pose la question. Le Midrash dit comment ça se fait. Pourtant, c'est, je veux dire, c'est deux situations qui se ressemblent beaucoup. Noach et Avraham, les deux, ils étaient à contre-courant. Avraham, il a fait quand même des convertis. Il a fait quelque chose. Pourquoi Noach a rien fait? Qu'est-ce que répond le Zohar? C'est l'avis de Rabbi Yehuda dans le Zohar. Quelque chose de très dur. Mais bon, on nous le raconte parce que c'est un enseignement qu'on a tiré de ça. Il dit, Noach, le faisait pas pour les gens. Il faisait pour lui. Dieu lui a dit de le faire, donc il faisait. Dieu lui a dit, vas-y, il faut que tu t'occupes des gens. Donc lui, il faisait. Il dit, bon, Dieu m'a demandé, je l'ai fait. Mais il a pas fait parce qu'il en avait à faire des gens. Donc ça marchait pas. Quand tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, fais une mitzvah, mais qui sent que c'est pas parce que t'en as à faire de lui, mais c'est parce que moi j'en ai à faire, que j'ai envie de le voir faire la mitzvah, il dit, écoute, laisse-moi tranquille, que si tu me prends la tête parce que tu veux me voir faire quelque chose, qui je suis pour toi, mec? Qu'est-ce que je te dois? Je te dois quelque chose? Ça marche pas comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour répondre à ta question, même une personne comme Noach, quelque part, d'une certaine manière, il avait une sorte d'égoïsme. Et Dieu, il y a des mots très très durs de Rabbi Yehuda dans le Zohar sur ça, il dit que c'est à cause de son égoïsme que ça n'a pas marché. Pourtant, sur le plan de l'action, Noach était irréprochable. Ça veut dire qu'on peut être irréprochable au niveau de l'action, mais contrairement, être égoïste. On peut être égoïste tout en étant juif très religieux. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec la religion, ça. Est-ce que je suis religieux ou je ne suis pas religieux? Là, ça a à voir, est-ce que je fais les choses pour Dieu ou est-ce que je fais les choses pour moi? Tu comprends? Là, on commence à donner une définition plus profonde du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est le bien et le mal? Le bien, c'est ce qui est fait pour Dieu. Le mal, c'est ce qui n'est pas fait pour Dieu. Ce qui est fait pour moi ou pour quelqu'un d'autre, pour autre chose, mais pas pour Dieu.
Mais là, il le faisait pour Dieu.
Qui c'est?
Il le faisait pour Dieu.
J'ai une question, ce que tu dis. Il le faisait pour Dieu. Mais il le faisait parce que lui, il a envie de faire ce que Dieu a dit.
Mais oui, mais il le faisait quand même.
Oui, mais encore une fois. Il le fait parce que moi, j'ai envie de faire ce que Dieu a dit. Parce que, encore une fois, ça tourne autour de moi. Moi, j'ai envie. Ça tourne autour du moi. Le moi est très présent. Mais, je sais plus qui c'est qui a fait remarquer tout à l'heure. On est né comme ça. Tu as raison de faire remarquer ça. C'est toi qui avais posé la question. On est né comme ça. Personne nous en voudra de ça. Mais, concrètement, l'homme, par définition, est très égoïste. Et il faut savoir que, je me rappelle toujours d'un exemple qu'a amené le Rav Yoel Kahn. Il disait comme ça. Regardez, par exemple. Pour nous expliquer comment l'homme, en vérité, est très égoïste. Il disait, il n'y a pas plus égoïste qu'un bébé. Prenez un bébé, par exemple, voilà, un enfant qui a 2-3 ans. Voilà. Il veut son bonbon. Il veut son jouet. Et on lui donne pas. Parce que bon, il mérite pas, ou parce que c'est pas le moment, ou parce qu'on peut pas lui acheter, etc. Il fait une crise. Tu crois qu'il se rend pas compte quand il fait la crise qui dérange tout le monde? Tu crois qu'il se rend pas compte? Tu crois vraiment qu'il se rend pas compte qu'il dérange tout le monde? Bien sûr qu'il se rend compte. À 1000% il se rend compte. Seulement pourquoi il continue? Parce qu'il faut savoir que l'homme, par définition, est égoïste. Seulement avec le temps, on apprend à le cacher. On apprend à pas toujours le montrer. Mais un enfant, comme il sait pas encore le cacher, donc il dit clairement, je suis pas d'accord, je le veux. Il sait très bien que c'est pas bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il est en train de faire un scandale. Et d'ailleurs, il utilise ça. Parce qu'il est égoïste. Donc l'homme a été créé égoïste, et d'après l'approche du Tania, en vérité, le challenge principal de la vie, c'est quoi? C'est essayer justement de mettre de côté son ego pour faire le bien, pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Et quand vous réfléchirez, j'essaie de réfléchir un petit peu à cette notion, en vérité, c'est une notion qui nous accompagne toute la vie, ça. Quand on est enfant, il faut combattre son ego. Quand on grandit un peu, il faut toujours combattre son ego. Quand on va se marier, d'accord, qu'est-ce qui fait quand un homme et une femme s'accrochent? Qu'est-ce qui fait qu'on s'entend pas avec les enfants? Le facteur numéro un, c'est quoi? L'ego. L'ego. Ça m'a touché à mon ego, je suis pas d'accord, je suis pas content. Et constamment, ça tourne autour de l'ego. Constamment. Ça nous lâchera pas toute notre vie. D'accord? Jusqu'au dernier jour de notre vie, ce qui va pas nous lâcher, c'est l'ego. Et donc, le challenge principal de la vie entre le bien et le mal, c'est quoi? C'est est-ce que je fais les choses pour Dieu ou est-ce que je fais les choses pour moi? Donc, en d'autres termes, toute la vie, ce qu'on essaye de faire, c'est mettre de côté son ego pour faire le bien. C'est ça, le challenge de toute la vie. Quand, par exemple, je fais une avéra, pourquoi je fais l'avéra? Je fais l'avéra parce que mon ego me dit, tu as envie de le faire, tu le fais. Ah, Dieu ne veut pas, ben tant pis, Dieu il veut pas, moi je veux. Quand j'arrive à me retenir, c'est-à-dire j'ai écrasé mon ego pour faire ce que Kadosh Baruch Hu m'a demandé. Toute la vie, le challenge de toute la vie, c'est écraser l'ego. Tout tourne autour de ça. C'est ça, Adam. C'est écraser l'ego pour essayer de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Morazé Ken dit, il n'y a pas 10 000 catégories ici, il y a deux catégories. Soit j'ai fait les choses pour moi, soit j'ai fait les choses pour la bonne cause. C'est tout. La bonne cause, c'est Akadosh Baruch Hu. Allez-y. Et d'autres questions?
Oui, tout à l'heure, vous avez cité qu'il faut que si on est acculé, il vaut mieux accepter de mourir plutôt que de se convertir, par exemple, ou de ne pas respecter.
Évidemment, oui, bien sûr. Voilà.
Mais alors, si j'accepte de mourir, je rends service à personne, ni à mes parents, ni à Dieu, ni à mes frères, ni à mes sœurs.
Qui vous a demandé de rendre service?
Je suis là. Tandis que si je meurs, je rends service à personne. Mais par contre, si j'accepte...
C'est même Dieu qui vous a mis en vie.
D'accord. Voilà, bon. Mais si j'accepte éventuellement de jouer le jeu, ben, je peux toujours revenir en acceptant ce qu'il me demande, je reste en vie et par derrière, je continue à faire les mitzvot, à respecter Dieu.
Ça marche pas comme ça. C'est pas à nous de décider les règles du jeu.
Oui, mais
celui qui décide les règles du jeu, c'est Kadosh Baruch Hu. Et l'instinct de survie du juif fait en sorte qu'il n'arrive pas à faire des choses comme ça.
Ben voilà, l'instinct de survie, c'est ça, c'est légitime.
L'instinct de survie, non mais, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. L'instinct de survie du juif.
Ben oui.
L'instinct de survie de la Neshama du juif est plus fort que son instinct de survie de son corps. Et on l'a vu concrètement dans l'histoire, ça. Je sais que dans ce commentaire sur le chapitre 6, moi aussi dans le chapitre 18, on va beaucoup parler de ça, le Rav Stenzaltz, moi qui est très, qui documente beaucoup son livre, dans son commentaire sur le Tanya, il ramène plusieurs références de livres qui ont été écrits par des juifs et par des non-juifs, de témoignages de gens qui étaient complètement à l'ouest, c'est-à-dire des gens qui étaient complètement très très loin de la Torah, et le jour J, on leur a dit, bon, ben dans ce cas-là, convertissez-vous, et tout d'un coup, ils sont opposés, non, on se convertit pas, ils ont donné leur vie. De manière incompréhensible, incohérente.
Oui, mais contraire aussi se fait. Hein. En 1492, à l'époque d'Élisabeth la catholique, beaucoup de juifs en Espagne se sont convertis au christianisme.
Ils sont pas, c'est les marraines.
Oui.
Ils sont pas convertis.
Les marraines.
Ils sont pas convertis.
Ils ont accepté quand même de se plier.
Mais ils sont pas convertis.
Maran.
Oui, de façade. Hein,
c'est les gens qui sont convertis de façade.
De façade, c'est pas d'habitude.
C'est
Maran. Ils ont fait comme si.
Mais avec un couteau sous les gorges.
Voilà. Bon. Mais ça, Rabotai, ça honnêtement, c'était pas le thème d'aujourd'hui. Ça, c'est le thème chapitre 18. Oui. Oui.
Est-ce que c'est de notre, comment ça s'appelle, possibilité de faire les choses uniquement d'un côté, c'est-à-dire du côté des choses?
Bonne question. Je répète la question.
Il faut être un tzaddik ou avoir une âme de tzaddik pour pouvoir le faire.
C'est une très bonne question. Je vais répéter la question. La question qu'il pose, c'est finalement, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que Dieu attend de moi que toute ma vie, je vais faire les choses que pour lui et je ne vais pas avoir du tout d'ego? La réponse est clairement non. Clairement non, bien sûr que non. Parce que j'ai été créé comme ça. Seulement, qu'est-ce qui va faire la différence entre le tzaddik, le rachat et le bénoni? C'est jusqu'à combien j'écrase mon ego. Le tzaddik, il a complètement écrasé son ego. Tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu.
Le tzaddik, il est créé comme ça?
Non. Le tzaddik, il est créé comme toi et moi. Seulement, le tzaddik, il a réussi à écraser son ego. Complètement. C'est-à-dire qu'il a aucune volonté propre. Ça, c'est le niveau du tzaddik.
Je croyais qu'il avait une échama particulière.
Non, il a une échama particulière, mais il a réussi concrètement avec son travail à écraser son ego. Nous, c'est pas notre travail, on peut pas écraser notre ego, mais toute la vie, notre travail, c'est on se bat contre notre ego. C'est ça toute la vie. Toute la vie, on se bat contre son ego. Donc il y a pas 10 000 et une catégorie. Il y a deux catégories. Il y a où je l'ai fait pour Dieu, où je l'ai fait pour mon ego. C'est tout. Donc ça nous ouvre beaucoup. Ça nous ouvre à beaucoup de choses.
On peut faire pour soi et pour Dieu, c'est
impossible. Non, c'est impossible.
Pourtant, on dit que Shabbat c'est Ratzil Hashem, Ratzil Anou, un truc comme ça.
Yom Tov.
Yom Tov. Ouais.
Oui. On va y arriver. On va y arriver.
C'est la volonté de Dieu.
Tu veux dire que la même action peut être une partie pour Dieu, une partie pour moi.
Non.
C'est pas la même chose. Une partie dédiée à Dieu, une partie dédiée à moi. Mais la question c'est pourquoi
celle qui est dédiée à moi est aussi bonne.
Ok, on va y arriver tout de suite. D'accord, il va développer ça tout de suite. Velachen, c'est pour ça Amrou Razal. Voilà pourquoi les Chachamim m'ont dit Shafilu echad sheyoshev osek batora, que même une personne qui est assise en train d'étudier la Torah, tout seul, Shrina Shruya, la Shrina se trouve avec lui. Vechen, pareil, c'est écrit aussi dans la Gemara Sanhedrin, que Kol be'asara shrinta sharia, que quand il y a 10 juifs qui sont assis, par exemple, comme nous ici, Baruch Hashem, on est plus que 10 personnes, 2 fois 10, Baruch Hashem, eh ben, shrinta sharia, la shrina réside. Ça veut dire quoi? Ce qui pourrait l'amener ça ici? Pour expliquer, sharia, attention, sharia, c'est ça réside, hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un juif, par définition, quand on a un minyan, quand on a une personne qui étudie la Torah, ou bien quand on a un minyan de juifs qui sont rassemblés, qu'est-ce qui se passe? Ce minyan est des gens qui vont être un réceptacle pour Akadosh Baruch Hu. Ils vont faire les choses pour Akadosh Baruch Hu. Il va expliquer tout de suite. Donc, Rabotai, nous n'avons pas 10 000 et une catégorie, nous avons 2 catégories. Ce qui est pour l'homme, ce qui est pour Dieu. C'est tout. Et il n'y a pas besoin d'être un grand sadique. Il suffit d'être 10 personnes réunies autour d'une table, minyan, même si c'est ces 10 personnes, et que ces 10 personnes-là, c'est des réchaïm, la shrina est là. C'est ça qu'il veut t'expliquer ici. Il y a pas besoin. Non. Si c'est une personne qui étudie, la shrina est là. Et si c'est 10 personnes qui étudient, même si ils étudient pas, la shrina est là. Parce que ce qu'il veut montrer ici, c'est qu'il n'y a rien de particulier à faire. Ne croyez pas que c'est des choses qui sont pour les tzadikim.
Il y a une partie de faire entre 10 juifs et il y a la shrina est là.
Bien sûr. C'est pour ça.
Ah bon.
C'est pour ça que c'est beaucoup plus grave. C'est pour ça que c'est beaucoup plus grave quand on fait des bêtises dans un bar. Dieu préserve, et qui est que des juifs, c'est encore plus grave que si c'est un bar de goïm. Pourquoi? Il y a des gens qui font des bêtises des fois dans des bars ou dans des casinos, des trucs comme ça. S'il y a que des juifs, s'il y a 10 juifs dans le même endroit, il y a la shrina. Donc c'est encore pire de faire quelque chose de bêtise quand il y a la shrina. Parce qu'il n'y a rien à faire. Quand il y a 10 juifs, il y a la shrina. D'accord? Ça change rien. C'est pour ça que c'est très grave. Plus on est nombreux, quand on est mignon, c'est très grave. De la même manière, c'est valable dans le bien, que quand on est mignonne, il y a quelque chose qui se passe, on peut faire l'office. De la même manière, quand on est au casino, on est 10 personnes. Quoi? Quoi?
Elle a quitté tout un peuple, Shrina. Elle revient pas.
10 personnes, bien
sûr. Elle a quitté tout le peuple.
Non, Shrina, elle réside toujours. Shrina, elle vient d'en haut.
Elle est dit, on était au Beth Amikdash, après elle est partie sur le toit.
Non, c'est trop chose, là, trop chose. Elle est là. On la sent pas, mais elle est là. Imanochi Betsara. Alors oui. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a un office au casino de journée.
La shrina. Eh ben voilà, ça c'est la shrina. Shrina, c'est comme shrana. David Raïm.
Comme shrana et comme shrana.
Aval, mais. Allez, rabotez, on se concentre. Aval, mais. Je suis à Aval. Vous avez Aval? Allez, on va reprendre dans les mots. Alors, dans les mots, je vous montre où j'en suis parce que je vois que vous suivez plus dans les mots, là. Alors, la ligne qui commence par Shrinta, ici. Shrinta. Et dans le livre en français, Aval. Voilà. Aval, ici. 104. Au milieu de la page, Aval. Aval, mais, kol ma she'eino batel etzlo itbarech. Tout ce qui n'est pas annulé à Kadosh Baruch Hu, et là où davar nifra du fin à ce moment, mais c'est une chose qui est séparée, qui a une volonté propre, et il nomme kabel chayut mikdushato shel Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas recevoir la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, miprinat pnimit akdusha ou mauta vatsmuta birvada ou vatsma, et là miprinat achoraim. Ça veut dire comme ça. Ici, il explique, il rentre dans une définition qu'on appelle de pnimi et achoraim. Je vais expliquer tout de suite. Je crois que j'ai donné une fois cet exemple, mais je vais le répéter quand même. Une fois, il y a un roi qui a organisé un repas. Il a organisé un repas pour ses ministres. D'accord? Un grand repas pour ses ministres. Donc bien sûr, il y avait plusieurs viandes, plusieurs poissons, un grand repas pour ses ministres. Il y avait tellement à manger que bien sûr, les ministres, ils ont mangé même pas 20% de tout ce qui était préparé. Donc il reste 80%. Qui c'est qui va manger ces 80%? C'est pour le peuple. D'accord. Les serviteurs, ils vont faire les restes. Maintenant, ils vont manger. À la fin, qu'est-ce qu'il va rester? Il reste encore. Alors, dans les serviteurs, il y a les serviteurs VIP. Il y a ceux qui mettent la main en premier. Tu vois, il y a les, comment ils appellent ça, les majordomes, tu vois, ceux qui mettent la main en premier. Maître d'hôtel. Après, une fois que les maîtres d'hôtel, ils ont mis la main en premier, après, ceux d'en dessous, etc. D'accord? Ok, attendez. Après, à la fin, tout le monde va passer dessus. D'accord? Il y aura donc les ministres qui ont pris. Après, il y aura eu les maîtres d'hôtel, les sous-ministres, tout le monde a pris. À la fin, les restes. Qui c'est qui va manger les restes? On va les prendre, on va les jeter à la poubelle. Et qui va les manger à la poubelle?
Les animaux.
Ça veut dire que concrètement, le roi donnait à manger aux animaux. Non, il n'a pas donné à manger aux animaux.
Non.
Voilà. Le roi, il a donné à manger à ses ministres. Il a fait un grand repas pour ses ministres. Seulement, ce qui restait, par derrière, ça veut dire de manière accessoire, c'est arrivé aux chiens. Mais le roi, quand il a préparé son repas, il n'a jamais pensé à ses chiens. C'est l'exemple.
C'est grâce à ça que les chiens ont mangé.
Très bien.
Oui,
ils ont mangé les chiens. J'enlèverai pas ça. Ils ont mangé. C'est un exemple. C'est pas un exemple que j'invente. C'est un exemple que le Zohar amène pour illustrer comment Akadosh Baruch Hu, des fois, il peut donner à quelqu'un quelque chose avec le sourire, comme le roi qui a donné au ministre. Et il peut lui donner par derrière. C'est-à-dire que bon, il va manger, mais c'est passé par 10 000 et une trucs et qu'à la fin, on voulait même pas lui donner, mais il a pris par derrière. De là, le Zohar, il dit, tout le monde, Baruch HaShem, toute personne qui est vivante ici en chair et en os, même les Rechaim qui sont vivants en chair et en os, s'ils sont vivants, ça veut dire qu'ils peuvent manger, qu'ils peuvent boire, qu'ils peuvent dormir, qu'ils font tout. Qui c'est qui leur donne cette énergie? Eh bien, nous dit le Zohar, que ces Rechaim-là, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il leur renvoie de l'énergie, il leur renvoie comme nous, comme si on avait dit que le roi a donné aux chiens. Est-ce que le roi, il a donné aux chiens? Oui, d'une certaine manière, oui, il a donné. Mais il n'a pas donné. Il a donné à ses ministres et les restes, il a envoyé. Donc, qu'est-ce qu'on appelle en hébreu prinat pnimi et prinat achoreim? Il y a ce qu'on donne, prinat pnimi, ça veut dire avec le visage. Il y a ce qu'on donne, prinat achoreim, c'est quoi achoreim? C'est par derrière, par le dos. Alors, il dit comme ça, bien sûr, 100%.
Non, mais il y a des réchelles qui tu dis qu'ils prennent les restes, mais ils ont des gros.
Mais les restes, c'est des gros les restes, qu'est-ce que tu crois?
Oui, gros restes.
Bien sûr, les restes, ils s'éclatent dans les restes. Parce que les ministres, ils sont là, ils osent pas se resservir, mais les serviteurs, ils s'éclatent après, ils se resservent 20 fois, bien sûr qu'ils se servent, ils servent très bien. Alors, je voulais développer ça. Donc, qu'est-ce qu'il explique ici, là, de Morazaken? Il dit, c'est très simple. Il dit, tous ceux qui sont du côté de la Kedusha, Akadosh Baruch Hu leur donne directement.
Face à face.
De plein visage. Ceux qui ne sont pas du côté de la Kedusha, Akadosh Baruch Hu leur donne par derrière. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour ça qu'il y a une différence entre les juifs et les non-juifs. Ça, c'est expliqué dans Giret HaTshuva. Qu'un juif, à Kadosh Baruch Hu, il nous dit toujours, il dit, si vous écouterez mes mitzvot, vous aurez. Si vous écouterez pas mes mitzvot, vous aurez pas. Pourquoi il parle pas comme ça au Goïm? Pourquoi au Goïm, il leur dit pas, si vous écoutez, vous aurez, vous écoutez pas, vous donnerez pas? Parce qu'il dit, écoutez bien l'exemple qu'il donne, il dit, c'est très simple, il dit, les chiens, on leur a pas demandé de bien se comporter pour recevoir. Qui se comporte bien ou qui se comporte mal, ils vont manger. Par contre, les ministres, s'ils se comportent bien, ils seraient invités. S'ils se comportent pas bien, ils seraient pas invités. Nous, les juifs, on n'est pas des chiens. C'est pas que je compare les autres aux chiens, Chas v'Shalom. Attention, je veux pas d'amalgame. Mais, attention, c'est pour l'image. Attention, non. Parce que de là, après, Mendy a dit que les goyim sont des chiens. D'accord? Le chemin est très court. Chas v'Shalom, c'est pas du tout ce que j'ai dit.
C'est un détournement journalistique.
Voilà. Ça, c'est un détournement qui est, mais, ce que je vais expliquer. C'est que ce qu'on doit savoir, c'est que quand on est lié aux côtés de la Kedusha, Akadosh Baruch Hu nous donne de plein face. Quand on n'est pas lié à la Kedusha, Akadosh Baruch Hu nous donne par derrière. Et avec ça, il explique l'Admor HaZaken dans le Igaret HaTshuva. Il dit qu'avec ça, on explique la raison. Comment ça se fait qu'on voit que des fois, des Rechaim, ils réussissent et ils ont grave, Dieu leur donne plein. Alors que des gens bien, ils ont rien. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est pas logique. Qu'est-ce que répond l'Admor HaZaken? Il dit, c'est très simple. Il dit parce que le tzaddik, il a décidé de communiquer avec Kadosh Baruch Hu comme le ministre, en pleine face. Donc si tu communiques comme le ministre en pleine face, des fois le roi il est content du ministre, des fois il est pas content. S'il est plus content, il va donner un peu plus, s'il est moins content, il va donner un peu moins. Mais celui qui a décidé d'être racha et d'aller dans la cour pour aller manger avec les chiens, mais il pourra s'éclater. Il pourra manger comme il veut. Mais Dieu ne lui a pas donné. Il a pris les restes. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui change? Ce qui compte, c'est de manger. Oui, celui pour lui, ce qui compte, c'est de manger.
Mais
dans quelle table aussi? À quelle table?
Par rapport au Rani.
Vous avez raison. Maintenant, autre chose. Attendez, j'ai pas fini. Un détail très important, ce que je viens de dire ici, c'est que l'Admor HaZaken dit que, en vérité, normalement, les Juifs, on n'aurait pas pu se servir comme les chiens. Normalement, c'est pas possible. Normalement, nous, Dieu, il doit nous donner en face. Ça veut dire, s'il est content de nous, il nous donne. S'il n'est pas content de nous, il ne nous donne pas. Pourquoi c'est pas comme ça aujourd'hui? Plus que ça, on voit que dans le schéma, on dit tous les jours, qu'est-ce qu'on dit dans le schéma? Dieu dit, si vous allez écouter le mitzvot, je vais donner la pluie en son temps. Et si vous n'allez pas écouter, il n'y aura pas de pluie. Vous avez vu ça de vos yeux, les gens qui n'écoutent pas, qu'il n'y a pas de pluie dans leur champ? Alors quoi, c'est faux ce qu'on dit dans le schéma? Mais c'est faux! C'est du pipeau! La pluie, elle tombe partout pour tout le monde! Eh ben écoute, quoi? Non, mais j'ai compris. Mais est-ce que tu as déjà vu qu'une personne qui est racha, la pluie n'est pas tombée dans son champ, aujourd'hui, de nos jours? Non! Alors, donc le schéma est faux!
Non.
Alors, écoutez bien, c'est quoi la réponse? Très simple comment l'Admor HaZaken développe, et ça c'est un rapport avec notre cours. L'Admor HaZaken, il dit c'est très simple. Il dit qu'en vérité, tant qu'on était avant la Galoute, tant qu'on était à l'époque du Beit HaMikdash, de nos yeux, on voyait, d'accord, la corrélation directe entre les actions d'un homme et ce qu'il recevait. Il y a des témoignages dans la Gemara, des témoignages partout, que lorsqu'une personne faisait les mitzvot, tac, il avait la bracha, lorsqu'il faisait pas les mitzvot, il faisait des avérotes, il avait des galères. Tu vas me dire, alors pourquoi il faisait des avérotes? Parce que faire une avéra, c'est un kiff. Et quand tu veux faire un kiff, t'es prêt à payer. Et des gens, ils sont prêts à aller faire des bêtises, n'importe quelle bêtise. Ils savent qu'ils vont payer. Mais tellement ils veulent faire la bêtise, qu'ils sont prêts à payer. Mais ça, dit l'Admor HaZaken, un des pièges de la galoute, de l'exil, c'est quoi? C'est que dans l'exil, nous ne voyons plus la corrélation directe entre nos actions et le résultat. Et des fois, on voit même le contraire. Notamment, on voit des Réchaïm qui vivent très très bien et des Tzadikim qui vivent très très mal. Il faut savoir que de manière générale, en règle générale, à l'époque, avant qu'on soit en galoute, avant qu'on soit en exil, c'était pas comme ça. Et que le schéma était véridique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, retenez, il y a que, pour un juif, il y a que deux pistes. Il y a le bien et ce qui n'est pas le bien. Et nous, les juifs, Dieu, normalement, nous donne par devant, comme les ministres, pas par derrière. Et donc, le ministre, quand le roi, il est pas content, il est viré. Il va pas manger. Alors que le chien, qui se comporte bien ou qui se comporte mal, de toutes les façons, il mangera. Donc, il faut savoir que nous, les juifs, on n'est pas des chiens. Nous, les juifs, on est comme des ministres. On n'est pas des figurants, on est des acteurs par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu est très, très regardant avec nous. Et dès qu'on fait la moindre gaffe, hop, c'est comme le ministre. Parce qu'il attend beaucoup de nous. Quand t'as un simple citoyen qui fait des bêtises, ça rien. Mais quand t'as un ministre qui fait une bêtise, regardez les télés médiatiques. Il fait une bêtise, une phrase, il a dit. Une phrase, un mot, il a dit. Pac! On le tombe dessus, c'est fini. Il a loupé le coche, il va tomber. Ben nous, les juifs, nous sommes comme des acteurs. Nous sommes comme des grands ministres. Et Dieu nous donne en face, et c'est pour ça que quand il est pas content de nous, ben il nous donne pas. Voilà ce qu'il veut expliquer ici. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a pas 10 000 chemins pour nous. Il y a le bien et ce qui n'est pas le bien. Est-ce que je l'ai fait pour Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je l'ai pas fait pour Akadosh Baruch Hu? Tu l'as pas fait pour Akadosh Baruch Hu? T'es dans l'autre côté. Et pas de problème, tu vivras très bien, t'inquiète pas, mais tu l'as pas fait pour Akadosh Baruch Hu, t'es pas dans le côté du bien. T'es dans le côté de Sitra Achara.
On peut faire du mal.
Ça, 2 secondes, je vais terminer avec, après je refais une pause question. De là, le Baal Shem Tov, il répétait souvent ça. Des fois, il allait voir des Talmidei Chachamim. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était très 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 critiqué, le Baal Shem Tov. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles il était très critiqué. Il allait voir des fois des Talmidei Chachamim, des gens, des érudits dans la Torah. Il leur disait, toute ton étude est dans Sitra Achara. Toute ton étude, elle est du côté du mal. Ils le prenaient pour un fou. Et les endroits où il était poursuivi, bah, les gens voulaient le cogner. Mais comment tu peux venir voir quelqu'un? D'accord? Tu vas voir un tzadik, une personne qui se comporte bien. Et quand la personne, tu vois, mais pas de Baal Shem Tov, il savait à qui il parlait. Tu viens le voir, tu lui dis toute ton étude, elle est si trara, le côté du mal. Tu dis, mais mince alors, attends, je fais les mises toute la journée, je fais pas une seule avéra, qu'est-ce que tu me racontes? Et le Baal Shem Tov lui dit, tout ce que tu fais pour ton orgueil. Toute ta Torah, elle vaut rien. Enfin, vous savez, il devait le... D'accord? Bien sûr, ça vaut quelque chose. C'est mieux que rien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être religieux à 100% et passer à côté de ça. Complètement. On peut être religieux à 100% quand tu dis pourquoi tu fais les mitzvot? Parce que socialement ça se fait, parce que j'ai envie de devenir quelqu'un, parce que j'ai envie qu'on me respecte, parce que j'ai... Rien, parce que j'ai. Et Dieu? Il a oublié, il connaît même pas Dieu. Il connaît même pas, ça l'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on peut être juif, religieux, faire toute la Torah et les mitzvot sans penser une seule seconde à Dieu. C'est très possible. Concrètement, je vous garantis que c'est possible. Qu'on peut passer des semaines entières à faire ton Shabbat, tes mitzvot, tes tefillin, par routine, sans penser une seule fois à Dieu. Bien sûr, c'est possible. 1000% c'est possible.
Hmm? Semaines,
quoi?
Tu fais une tefillah, ou bien c'est une tefillah, c'est pas la même.
C'est possible.
La religion juive, c'est une religion qui est un peu contraignante.
Quand elle rentre
dans la contrainte,
mais après,
obligatoirement, tu es obligé de
t'obliger. Exactement. Mais après, quand tu tombes dans la routine, c'est fini. D'accord? Tu as raison. Il y a des moments dans lesquels, effectivement, comme tu dis, hop, ça revient à la surface, et là tu dis, maintenant, pourquoi je le fais, etc. Et là, tu repenses à Dieu.
Mais c'est-à-dire qu'on peut...
Ah oui, c'est quoi faire Modéani. C'est dire en Modéani le Fenecha, Menecha Vekayam. Mais excuse-moi David, je vais te poser une question honnêtement. Quand tu te lèves le matin, t'as la tête à moitié dans le coltar. D'accord, quand tu dis Modéani le Fenecha, tu es en train de penser je remercie Dieu
de m'en faire. Oui.
Attends.
Moi aussi, je pense. Oui, en pensant vraiment, on dit merci Hachem.
D'accord. Baruch Hachem, j'ai pas dit que tu le fais pas. Je dis qu'on peut le faire par routine, on peut répéter des textes par routine, on peut le faire sans penser à un moment Kadosh Baruch. Je suis pas en train de dire qu'on le fait pas. Chassé Shalom, attention, on n'est pas là. Mais ça peut exister. Ça peut exister.
Peut-être dans le coltar maintenant, mais pas tout le monde, hein.
Méchant,
ça y est. Pas tout le monde, hein, nous. Je me réveille.
Donc, encore une fois, nous dit l'Admor HaZaken, on n'a pas 10 000 catégories, on a deux catégories. Soit je l'ai fait pour Dieu, soit je l'ai pas fait pour Dieu. Alors, pas pour Dieu, je peux le faire par routine, je peux le faire pour quelqu'un, mais peu importe, je peux faire pour un cadeau, je pense.
On peut faire du mal.
Maintenant, pose question, allez-y.
On peut faire du mal et pour ça, pour Hachem, quoi. Je veux dire, je vais voler et en même temps, je vais donner la tzedaka, ce sera pour Hachem.
Non. Dieu me l'a interdit.
Tu
as raison. On peut faire une avéra en pensant à Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. C'est une histoire qui est, je vous cache pas, c'est une histoire qui est pas facile à comprendre, mais je pense que cette histoire va illustrer un beau taille.
S'il vous plaît.
Je raconte l'histoire après les questions. Une histoire vraiment magnifique du rabbi de Kotsk. Une fois, hein, il y a un des élèves du rabbi de Kotsk qui est venu le voir. Kotsk, c'est une ville en Ukraine. D'accord, que d'ailleurs que Dieu pense aux juifs d'Ukraine et qu'il les protège. Écoutez cette histoire. C'est bon, monsieur? Je sais plus où mettre mes oreilles, là, ici ou ici.
S'il vous plaît, en cas monsieur.
Alors, il y a une fois un juif qui est venu voir le rabbi de Kotsk. Et qui lui a dit, rabbi, j'ai une question à vous poser. Il lui a dit, comment ça se fait que j'ai étudié le Nar, j'ai étudié la Bible. J'ai étudié, vous savez, il y a le Chumash, et à part le Chumash, il y a la Bible. D'accord, il y a les prophètes, etc. J'ai étudié la Bible. Et dans tout ce que je lis, je vois que des Averot. Je vois que les Bnei Israël, les rois d'Israël, tout le monde, ils n'arrêtent pas de faire des bêtises. Il dit, mais je comprends pas. Pourquoi on me demande d'étudier ça? C'est ça notre Bible? On nous raconte des gens qui n'arrivent pas à faire d'Averot. Vous avez déjà lu la Bible? Vous avez vu le nombre de Averot qu'il y a là-bas? Mais qui pose la question au rabbi de Kotz, qui dit, mais je comprends, pourquoi on nous raconte l'histoire de ces gens-là? Qui arrêtaient pas de faire d'Averot, qui arrêtaient pas de se révolter contre Dieu. D'accord? Des histoires vraiment choquantes que nous aujourd'hui on s'imagine même pas. D'accord? Donc il pose la question au rabbi de Kotz. Le rabbi de Kotz leur a répondu à la chose suivante. Il lui a dit, de leur Averot, on a fait une Torah. De tes mitzvot, on fera pas une Torah. Faut que j'explique l'histoire maintenant.
C'est grave,
attention. C'est parce que le rabbi de Kotsk qui parlait, d'accord, attention, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que ces gens-là, quand ils faisaient des avérotes, c'était une manière pour eux de communiquer avec Dieu. C'était assourd. Mais c'était une manière pour eux de se révolter contre Dieu. Ils croyaient en Kadosh Baruch Hu. Et même quand ils faisaient une avéra, c'était pour se battre avec Kadosh Baruch Hu, Chas V'Shalom. Donc ces gens-là, c'est vrai que c'est des avérotes ce qu'ils ont fait, mais ils croyaient qu'ils communiquaient avec Akadosh Baruch Hu. Mais il a parlé à ce chassid, il lui a dit, toi tu fais des mitzvot, quand tu fais tes mitzvot, tu penses à Dieu. Alvaï que toi, quand tu fais tes mitzvot, tu penses à Dieu, autant que eux, ils pensaient se battre avec Dieu quand ils faisaient leur avérotes. Pour eux, à l'époque de ces prophètes-là et de ces rois de l'époque d'Israël, pour eux, Dieu était quelque chose de réel, de concret, de vivant. C'est ça la réponse du rabbi de Kotsk. Et encore une fois, ça illustre ce que je viens de dire, qu'on peut être juif religieux, qui fait la Torah et les mitzvot, et qui, au niveau de l'action, il est irréprochable, mais qui pense pas à Dieu. Il connaît pas Dieu, ça l'intéresse pas, il en a rien à faire. D'accord? Bonne question, ok?
Oui, mais
c'est quoi?
Après,
J'ai pas dit que c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est pas, il n'y a pas mieux. Ce qu'il voulait lui expliquer, c'est que leur avérot, au travers de leur avérot, ils communiquaient avec Dieu. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Je t'ai donné un exemple. C'est comme par exemple quelqu'un qui t'énerve. D'accord? Quelqu'un qui t'énerve. Alors, tu as celui qui va aimer la personne et tu as celui qui m'énerve. Donc, comme il m'énerve, je vais me battre avec lui. Mais le fait de te battre avec lui, c'est-à-dire que tu sens qu'il est concret, qu'il est là, qu'il est réel, et tu te bats avec lui. Donc le fait de te battre avec lui, c'est déjà quelque chose.
rattraper Hachem, il fallait faire ses mitzvot et il fallait faire la croix, il ne fallait pas faire des
avirot. Bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'ils ont fait. On n'est pas en train de dire que c'est bien ce qu'ils ont fait. Mais le fait même de se battre avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'ils y croyaient. Je vais illustrer ça avec une histoire, une autre histoire encore. Aujourd'hui, je suis en mode histoire. Parce que non, je pense que les notions sont tellement fines qu'il faut des histoires pour illustrer ça. Chasve Shalom, j'ai pas dit ça. Quatrième fois, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ils ont été punis pour ce qu'ils ont fait. Mais ils communiquaient avec Dieu. Monsieur Benita, je vais rajouter une histoire pour illustrer ça. Dans la Gada chez le Pessah, on s'approche bientôt de Pessah. Peut-être deux secondes. Peut-être que vos femmes ont déjà commencé le ménage, c'est possible. Alors, dans la Gada de Pessah, on sait qu'il y a quatre enfants. Et que le deuxième enfant, c'est le rachat. Premier, c'est le chacham. Le deuxième, c'est le rachat. D'accord? Et le rachat, il est à la table du CDR. Et qu'est-ce qu'il dit, le rachat? Le rachat, il dit, ma voda azot lachem. Qu'est-ce que vous faites autour de cette table? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre travail? Il se moque. C'est quoi vos pratiques? Qu'est-ce que vous faites? Il se moque. D'accord? Qu'est-ce que répond la Gada? Elle dit, af, ata, toi aussi, akhe et chinav. Fais-lui grincer les dents.
Pardon?
Fais-lui grincer les dents. Nettoie-lui les dents. Alors, les commentaires posent la question, ils disent, mais quel rapport entre les dents et le rachat? D'accord? Quel rapport entre les dents et le rachat? Quel rapport les dents? Pourquoi les dents? Quel rapport avec les dents? Alors écoutez bien. C'est un rave, j'avais lu une fois ce commentaire d'un rave, qui a été inspiré de ce commentaire une fois lorsqu'il était chez le dentiste. Une fois, il était chez le dentiste. Et il était chez le dentiste. Non, il est parti chez le dentiste. Et le dentiste a commencé à lui toucher à une racine parce que bon, il lui faisait des soins. Et à un moment, quand il a touché à la racine, ça lui faisait très très mal. Donc il croyait qu'il y avait un nerf qui était mort. En vérité, il était vivant. Donc il a hurlé, tout de suite il a hurlé. Et là le dentiste il lui a dit, si ça vous fait mal, c'est un bon signe. Ah bon? Ça veut dire que le nerf est en vie. Et là il a dit, quand le dentiste il m'a dit ça, pac! Tout d'un coup j'ai eu un flash. Je dis, mais c'est ça dans la Haggadah. Quand t'as le rachat qui est là, qui est autour de la table, qui te fait de la résistance, qui est là en train de te dire, ouais, je suis pas d'accord, ce que vous faites, les religieux, etc. C'est que le nerf est encore en vie, c'est qu'il est vivant, donc c'est un bon signe. Mais c'est vrai qu'il n'est pas religieux, mais il communique. On parle encore avec lui. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Ceux que tu as après, c'est ceux qui sont indifférents. Ou celui qui ne se pose pas de questions, ou bien encore pire, d'accord? Celui qui ne veut pas poser de questions, et comme le disait le rabbi, il y a un cinquième enfant, celui qui n'est même pas à la table du CDR, il n'en a rien à faire. Ça ne parle même pas, il n'en a rien à faire. Mais le rachat, le fait même qu'il est là pour se battre, ça veut dire que quelque part, ça lui parle. Ça lui parle. Et le Rav Stenzel se raconte aussi une autre histoire pour illustrer ça. Il dit qu'une fois il enseignait à l'université hébraïque de Jérusalem. Et une fois, il y avait un des professeurs là-bas. Vous savez, les Israéliens, quand ils sont pas religieux, d'accord. Alors, une fois, il y avait un des professeurs là-bas de l'université hébraïque de Jérusalem. Donc, il a organisé un cours de Gemara, le Rav Stenzel, c'est un cours de Gemara. Et il a voulu convaincre un professeur de venir au cours de Gemara. Alors le professeur au début il dit non, je veux pas venir à ce cours de Gemara, je suis pas intéressé, ça m'intéresse pas, etc. Moi je crois pas. Et il lui disait, moi vous savez, le jour de Kippour, je fais exprès de manger du jambon, de prendre la voiture le jour de Kippour. Et là le Rav Stenzel, qu'est-ce qu'il lui sort? Écoutez bien, le Rav Stenzel, qu'est-ce qu'il lui sort? Il lui dit mais vous croyez? Ça veut dire que vous croyez? Il dit, quoi, je crois? Mais je vous raconte que le jour de Kippour, je suis en train de manger du jambon et prendre la voiture. Vous me dites, je crois? Et oui, vous croyez? Il dit, parce que, pourquoi vous avez choisi le jour de Kippour pour faire ça? Ça veut dire que ça vous dérange. Et là, écoutez, c'est l'histoire que la personne raconte dans son livre. Il dit, quand l'autre il a entendu ça, il a dit, vous avez raison, il faut réfléchir. Il dit, bon, je vais venir au cours de Gemara. Il est venu au cours de Gemara, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il est devenu religieux. Parce que, qu'est-ce qu'il a voulu montrer le Rav Stenzel avec cette idée? Il lui a dit, toi tu dis que t'es pas religieux, mais du fait même que tu es là en train de te battre avec moi, ça veut dire que ça te dérange. Ça veut dire que quand on a des fois dans nos familles et dans nos amis, des gens que chaque fois qu'on leur parle de religion, pac, t'as l'impression que c'est la guerre. C'est un bon signe si c'est la guerre. Le pire, c'est celui qui en a rien à faire. Il est là, regarde, avec le grand sourire. D'accord. Il te fait ça devant toi, il te fait tout ce que tu veux, et dehors, il te fait tout oublier. Quand t'as une personne, tu l'invites à la maison, tu lui dis, va faire le moti. On va faire maintenant le moti. Il dit, non, ça m'intéresse pas vos pratiques, c'est un bon signe. Ça veut dire que ça le parle, c'est-à-dire que ça le bloque. Donc c'est un bon signe. C'est comme les dents. Si le nerf il fait mal, c'est qu'il est en vie.
C'est pas la vision du Talmud. Hein. C'est plus grave.
Oui, j'ai compris.
Donc c'est pas la vision.
Je parle pas de grave. Je parle pas de grave. Alpidine, bien sûr c'est grave. Je parle de.
Je parle pas de grave, pas grave.
Bien sûr c'est grave. C'est évident que ce qu'ils ont fait à l'époque du Tanar, c'était très très grave ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'il veut t'expliquer ici, c'est que c'est grave ce qu'ils ont fait, mais ils croyaient en Dieu. Peut-être plus que nous. Parce que pour eux, Dieu était quelque chose de concret et de réel, et c'est pour ça qu'ils avaient de la résistance. Donc ça veut dire comme ça. Aujourd'hui, on a eu une nouvelle définition du bien et du mal. Jusqu'à maintenant, on croyait que le bien et le mal, c'était faire la mitzvot et faire la, et ne pas faire la averot. L'Admor HaZaken te répond, il te dit, ça c'est la définition du bien et du mal par rapport au jugement. Est-ce que je serai jugé en bien? Est-ce que je serai jugé en mal? Mais si tu cherches la définition absolue du bien et du mal, le bien, c'est ce qui est fait quand on pense à Dieu. Le mal, c'est quand on pense pas à Dieu, quand on oublie Akadosh Baruch Hu. D'accord, vas-y. Très compliqué comme définition. Ouais.
Ils étaient au Vada Vodazara, quand au Vada Vodazara, qu'ils nous confirment.
C'est très clair. C'est très clair.
Il peut pas croire en Dieu. Les confirment avec un qui a Vodazara.
Justement, comme il croit à Kadosh Baruch Hu, comme il est énervé contre Kadosh Baruch Hu, et que pour lui, Dieu, il pense que Dieu l'aurait pu mieux faire, et qu'il pense que Dieu c'est quelque chose de réel, donc il va communiquer avec Dieu comme moi je vais être énervé contre ma femme.
Mais c'est
très grave ce qu'ils ont fait, mais ça prouve que pour eux Dieu est quelque chose de réel.
C'est l'importance de révolter.
Il s'énerve avec Dieu parce qu'il dit Dieu, je crois que tu aurais pu m'aider, c'est-à-dire qu'il croit en Dieu, il croit que Dieu aurait pu l'aider. Alors qu'une personne qui en a rien à faire, qui dit bon Dieu de toutes les façons, moi je fais mes mises par routine, il croit pas.
C'est comme un enfant qui fait des bêtises pour énerver son père.
Bien sûr, parce qu'il croit en son père, il est là son père. Allez-y, les questions. Je suis conscient que c'est une définition qui n'est pas facile à comprendre, hein, je vous cache pas.
On parle par exemple dans la Torah, quand on dit qu'on voit que des fautes, par exemple, on va voir des fois certains rois d'Israël qui sont par exemple des grands sadikim, on ne peut pas en remettre en question, mais qui ont fait des révérotes. C'est de ceux-là qu'on parle, c'est par exemple le beau-père de Moshe, qui avant.
Non, c'est pas dans le Chumash, pas dans le Chumash, dans le Nar, dans les prophètes. Il y a plein d'histoires là-bas avec des rois qui ont fait des trucs que tu peux même pas t'imaginer. Des rois d'Israël. Et leurs histoires font partie de la Torah.
C'est des gens qui croyaient.
Voilà.
Et qui à un moment, par exemple, peut appliquer les choses de Dieu. C'est-à-dire, ils ont cru peut-être faire quelque chose, mais ça restait toujours dans les choix.
Même au travers de la Vera et croyant, quand je parle.
Oui, mais c'est-à-dire que cette action, c'est comme si je te dis, voilà, lui te dit dans la Torah, c'est bien, mais non, ne fais pas ça. Et en gros, il a fait parce que voilà, c'est écrit. En gros, ils avaient les mêmes actes devant eux. Eux, peut-être pour eux, ils croyaient que c'était le bien, donc c'est pas la même
chose. Non. Ils savaient que c'était un. Est-ce que tu connais la définition Shmata? C'est-à-dire Shmata?
C'est-à-dire
Shmata? Shmata. Shmata, ça veut dire tellement il croit en Dieu que quand Dieu il a énervé, Shmata pour énerver Dieu, il fait une avéra. Mais comme a fait remarquer Abraham à juste titre, il a fait remarquer. Que Moumar, les Harris, c'est très très grave de faire des choses comme ça.
C'est plus grave que Moumar.
C'est, bien sûr, c'est très très grave. Mais d'une certaine manière, ça prouve qu'il y a encore une Emouna. Donc ça, c'est le bon signe qu'il y a dedans. Oui, bien sûr qu'il reste juif. Mais est-ce qu'il a la Emouna? Est-ce que c'est quelque chose de vivant chez lui? Est-ce que c'est quelque chose de réel chez lui? Non, c'est pas forcément. Il a au fond de lui, mais c'est pas réel chez lui. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Rabotaï. Allez-y. J'arrive pas à entendre. Ah, 100%, 1000%, oui, ça.
Il a moins de chance.
C'est pas moins de chance.
C'est un juif, mais
moins. Le plus difficile dans la vie d'un juif, c'est de croire que Dieu est quelque chose de réel, et de concret, et qui change quelque chose dans ma vie. Celui qui fait une avéra contre Akadosh Baruch Hu pour énerver Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que pour lui déjà Dieu est quelque chose de réel. Donc c'est déjà un très grand point ça. C'est très grave ce qu'il a fait, mais c'est un très grand. Ça veut dire qu'une personne comme ça, pour le ramener, c'est pas très très compliqué. Alors qu'une personne qui croit en rien et que pour lui ça lui dit rien du tout, c'est très très compliqué à ramener une personne comme ça. Tu sais comment, moi je vois des fois tu vas chez des gens, quand tu appelles le mezouza, il rien dit rien du tout. Il rien à faire. Quoi? C'est bien de douter. C'est déjà un bon point de douter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est bien. Quoi? Encore une fois, la seule définition que j'ai, c'est est-ce que Dieu est quelque chose de vivant dans ma vie? Est-ce que je le fais pour Dieu? Est-ce que c'est pour Dieu? Oui ou non?
Est-ce que c'est ça la différence entre Dora
et Dora Balaga? Je sais pas.
Peut-être.
Je sais pas.
Dora Balaga, ils ont voulu se battre contre Dieu, ils croyaient en Dieu. Ils voulaient se battre.
Peut-être, je sais pas.
Donc ils croyaient en Dieu, ils ont pas été détruits. Par contre, Maboul, ils ont été complètement détruits.
Ils y croyaient pas, Maboul. Allez-y. Il y a des questions?
La dame qui vous a dit que vous avez été à l'enterrement, elle n'était pas croyante. Elle vous a dit, à son enterrement, vous voulez qu'il y ait un rabbin et qu'il soit là.
Oui.
C'est bon, ça.
Bien sûr. Ça fait quelques semaines. Il y avait une fois, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un Shabbat. il y avait une dame rescapée de la Shoah.
Ah oui,
on faisait les Shoah.
Oui, oui. Il y a trois semaines, quatre semaines.
Et voilà, donc on avait parlé un petit peu. Et après, le, quand on était au Kiddush, quand on était au Kiddush, alors il y a, bon, je suis parti saluer les amis qui étaient venus, aussi des rescapés de la Shoah, il y avait trois, quatre rescapés de la Shoah. Et une dame qui a demandé à me parler, elle m'a dit, je suis pas content comment on lui a fait, parce qu'apparemment, l'enterrement, il a été fait sans rabbin. Il a été fait à 100 km de Paris, ça a été fait sans rabbin, enfin bon, ça n'a pas été fait comme ça aurait dû être fait. Parce qu'ils l'ont fait dans la catastrophe, elle avait un fils adoptif qui l'a mal fait. Et elle a dit comme ça, elle m'a dit, moi je crois pas en Dieu, comme ça elle m'a dit, moi je crois pas en Dieu, mais je voudrais être enterré par un rabbin.
Ça veut dire quoi? Ah, pourquoi?
Je vais lui dire, non, vous vous trompez, j'ai dit, oui, vous avez raison, madame, pas de problème. C'est ce que je dis.
Il n'en est jamais ça. Hein.
Dans la vie, tu vas répondre si tu as telle chose.
Non, mais c'est
un fait de Dieu.
C'est
un fait de Dieu.
J'ai pas entendu le début de la question.
C'est comme si tout à l'heure,
il a dit pas
de il y a 5 minutes, si telle chose se passe dans la vie, c'est que c'est une volonté de Dieu.
Oui.
Il a dit qu'il ne faut pas voir la chose comme ça. Il ne faut pas la croire comme ça.
On va leur dire ça. On peut en reparler après si tu veux. Non. On va en parler après, oui.
Tu sais que quand une feuille d'arbre, une feuille tombe dans l'arbre,
oui.
Alors on dit que c'est Hachem qui décide
bien
de faire comme ça.
Okay.
Non, mais attends, je vois, alors, mais tout à l'heure, un truc grave, c'est que tout à l'heure, tu me dis que donc les Réchaïm, ils ramassent les miettes, parce qu'Hachem, c'est-à-dire que Hachem ne gère pas ça, c'est possible.
Ah, bonne question. Très bonne question, le Serge. C'est là qu'on arrive à la fin.
Ah, allez, on attendait
celle-là. Alors,
c'est l'heure, il dit non.
J'attendais cette question. Alors, gagné. Alors, écoutez la question de Serge. Serge, il pose une très très bonne question. Toutes les questions étaient bonnes, hein, je vous rassure. Mais c'est la question de la Dmoura Zaken dans la suite. Écoutez la question. Serge, il pose une très bonne question. Il dit, la question très simple. Il dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter ici? On est en train de raconter qu'il y a des gens que Dieu donne de face et qu'il y a des gens que Dieu donne par derrière. C'est-à-dire qu'en vérité, ils devraient pas recevoir, mais ils prennent les restes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qui échappent à Dieu?
Ah oui, ça veut dire ça.
C'est ce que ça veut dire? Parce que le roi, bien sûr, qu'est-ce qui se passe avec les chiens lui échappe. Mais Dieu, rien ne lui échappe. Et normalement, il aurait pas dû laisser que les réchaïs, même derrière, comme les chiens, ils devraient pas prendre. Celui qui mérite pas, il prend pas, c'est tout. Ou tu mérites, tu prends, tu mérites pas, tu prends pas. Dieu devrait maîtriser sur toute la ligne. D'accord? Sans fuite. Ben oui, c'est quoi cette histoire? C'est quoi la réponse? Hein, c'est quoi? Alors, la réponse,
c'est oui.
La réponse qu'il va expliquer, c'est que la seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait ça, c'est pour créer la notion de libre arbitre sur Terre. Que si c'était évident pour tout le monde, que si on fait pas, que si on fait des averot, on vit pas. Et que si on fait des mitzvot, on vit. Il y a plus de libre arbitre. Parce que pour avoir un libre arbitre, il faut que les deux soient équitables. Et que je peux choisir option A, option B. Et que les deux reviennent à peu près au même. Et que moi, j'ai choisi de faire option A. Mais si de toutes les façons, option A, c'est rester en vie, option B, c'est sauter par la fenêtre, bien sûr, je prends l'option A. Mais c'est même pas un choix. C'est pas un libre arbitre. Il y a plus de libre ici. Il y a plus de liberté. Pour avoir une liberté, il faut que les deux soient au même niveau. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, dans le plan de son monde, il a créé deux options. Option A, option B, et les deux sont viables. Option A, je te donne directement. Option B, tu récupères par derrière, mais les deux sont viables. Parce que sinon, il n'y a pas de libre arbitre. D'accord? Voilà. C'est un choix, oui, bon. Ça. Ok? Voilà. Alors, au final, je résume avec ça, et on s'arrête là pour aujourd'hui. De toute façon, on reviendra dessus la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, si aujourd'hui c'était pas très clair, on reviendra dessus la semaine prochaine, mais de ce que je regarde dans vos yeux, j'ai l'impression que c'est clair. Donc, en d'autres termes, si on peut résumer en un mot ce qu'on a expliqué aujourd'hui, on s'est arrêté sur une chose, une seule chose. La définition du bien et du mal dans la Torah. C'est tout. Ça, c'était le thème du cours d'aujourd'hui. Le bien et du mal d'après la Torah, on a dit que le bien et le mal, c'est pas faire le bien et faire le mal, non. On a expliqué qu'on peut avoir une personne qui fait des bonnes choses. D'accord? Mais qui pense pas à Dieu. Donc ça s'appelle pas une bonne chose. C'est une mitzvah ce qu'il a fait, y a pas de problème. Mais il a pas fait pour Dieu, c'est pas du bien absolu. On peut avoir une personne qui fait du mal. Mais il a fait en pensant à Dieu. Donc il y a du bon dedans. Ça veut dire que c'est quoi la définition d'après la Torah du bien et du mal? Le bien c'est ce qui est fait pour Dieu, le mal c'est ce qui n'est pas fait pour un Kadosh Baruch Hu. Et donc ça c'est deux secondes. Rabotaille. Dommage vous ratez la conclusion. Donc ça veut dire quoi concrètement? Le challenge dans la vie d'un juif, le challenge constant qui ne s'arrête pas dans la vie d'un juif, c'est quoi? Tout ce que je dois faire, je dois le faire pour Hachem. Et c'est le combat constant. Je dois écraser mon ego je dois l'écraser pour faire pour Akadosh Baruch Hu. C'est un combat qui est très difficile. D'accord? Le plus difficile, c'est de mettre de côté mon ego pour le faire pour Akadosh Baruch Hu et croire en Akadosh Baruch Hu, croire en fait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de concret. Bien sûr. Alors. Bezrat Hashem, deux secondes. Juste deux secondes. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va continuer sur ce sujet. Allez, bon. On va développer la semaine prochaine que dans l'autre côté, il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses qui sont pas bien. Voilà, ça on développera la semaine prochaine. Mais bon, de manière générale, c'est le bien et ce qui n'est pas bien. Alors allez-y. J'ai pas dit ça.
Ça colle avec le cours et ça colle avec le fait de se révolter contre Dieu. C'est vraiment en rapport. C'est une histoire qui m'a été racontée il y a 14 ans par le Rav Slavatsky.
Ça t'a marqué ?
D'Anvers. Ouais, ça m'a marqué. Elle vient de ressortir. Donc en fait, c'est le Rav Slavatsky l'a vécu, puisque c'est un Israélien, donc c'est le chaliar d'Anvers. Et c'est un Israélien, donc c'est un Sabra. Et il raconte qu'avant d'avoir sa chliroute en Belgique, donc un Shabbat matin, il était à Jérusalem, devant le Kotel, et c'était l'heure de la Kriyat HaTorah devant le Kotel. C'est quand même un moment un tout petit peu solennel là-bas.
Shabbat
matin. Et en plein Kriyat HaTorah, il y a l'armée qui se pointe, avec des jeeps, et tout un cortège, qui font écarter tous les religieux qui sont là. Et il y a une jeep qui arrive en plein Shabbat, devant le Kotel, descend, c'est une histoire vraie.
En Israël.
Bien sûr,
Kotel, il n'est pas là. Hein.
Non, mais il parle de
Kotel, il n'est pas là.
Devant le Kotel, avant
c'était à Anvers, le Kotel.
Alors, t'as dit ça.
Eh, ça va pas, la faire ça, là.
Arrête un peu. Je vais traduire.
Il a un Kotel à Anvers.
Et donc, de cette jeep, descend un général 3 étoiles avec les Ray-Ban Mercure,
un
look américain, sauf que c'était un Israélien. Il vient, la Kriyat HaTorah s'arrête quand même, donc il interrompt la Kriyat HaTorah, il prend un papier, il écrit
en plein Shabbat,
en plein Kriyat HaTorah, et il met le papier entre deux pierres sur le mur, et il s'en va, et l'armée repart, et donc la Kriyat HaTorah reprend. Alors, le Rav Slavatsky, il nous raconte que à la fin de Shabbat, il n'a pas tenu. Il a été voir ce qui était marqué. Tu la connais ?
Non, je ne la connais pas. Mais
elle est fantastique. Donc, il ouvre le mot et il voit marqué « Dieu fait en sorte que les Maccabim de Tel Aviv, ils gagnent le match. »
Ah, un match
de foot, c'est ça.
Maccabi Tel Aviv.
Non, basket.
Sport, quoi.
Sport. Bon, ouais.
Il a fait tout ça. Alors, il a fait tout ça pour ça. Et donc, la conclusion de l'histoire, c'est le Rav qui la pose, qui la donne. C'est est-ce que ce juif-là, il est croyant ou est-ce qu'il n'est pas croyant ?
Big time, bien sûr qu'il est croyant.
Voilà. Non, mais c'est ça, donc c'est toute l'histoire du gars qui
il est peut-être plus croyant que nous.
Shabbat pour un mal.
Est-ce que plus croyant que toi, il faut Shabbat.
Croyant. C'est-à-dire pour lui, ça marche. Il est croyant big time. C'est une avéra ce qu'il a fait. Mais il est croyant, il y croit. Il n'y a rien de plus dur que croire en Dieu.
Est-ce que l'équipe, elle a gagné ou pas?
Exactement. Puisque vous avez parlé des matchs de foot, il y a un entraîneur israélien qui s'appelle Pini Gershon.
Oui, il est connu.
Et cet entraîneur israélien, il a été convaincu par un Rav Chabad qui lui a dit, il faut que tu mettes les tefilines en public devant ton équipe et qu'ils prennent l'exemple sur toi. Et il lui a dit, si tu vas le faire, et que devant tout le monde, toutes les télés te regardent, tu vas gagner. Il faut s'engager pour le faire. Le Rav, il a raconté, il a dit, putain, je sais pas ce qui m'a pris de m'engager. Jamais on s'engage des trucs comme ça.
Alors,
c'était un big match, un gros match, et bon, c'était pas gagné. D'accord? Et il a raconté, il a dit, devant toutes les télés, il est venu, il a mis les tefilines, et les gens, après toute l'équipe, ils ont mis les tefilines, etc. et tout. Et il a dit, ils ont gagné. Après, à chaque fois, écoutez bien, après, à chaque fois, il appelait le Rav, il vient nous mettre les tefilines, et à chaque fois, il gagnait. Fait que le Rav, il a dit, écoute, moi, je suis pas devant, moi, je vais pas, vous les mettez les tefilines tout seul, et pas de problème.
Ça marchait.
Et bien sûr, ça, parce qu'il croyait. Mais il croyait. On voit beaucoup, je vous promets, on voit beaucoup des gens comme ça. Je rencontre beaucoup de gens, des gens qui sont loin de la Torah. D'accord. Oui, je vous promets que je sais qu'Abraham il va pas être content de ce que je vais dire, mais je rencontre beaucoup de gens comme ça. Je vous promets, quand je vais dans les maisons, je vais dans les magasins, je rencontre beaucoup de gens comme ça, des gens qui au niveau de la pratique ils ont rien. Mais des fois, hein, je vois la émouna qu'ils ont. Au niveau de la pratique, parce qu'ils n'ont pas été éduqués dedans, etc., etc. Ouais. Mais des fois, la émouna qu'ils ont est tellement réelle que je suis jaloux. Je suis jaloux, je dis, waouh, j'aurais aimé avoir une émouna tellement réelle. Je suis pas jaloux du fait qu'on fait les mitzvot. Bien sûr, je suis content de faire les mitzvot. Mais des fois, ils ont une émouna qui est tellement réelle, tu dis, je suis loin du compte. C'est extraordinaire. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de mieux qu'avoir une émouna concrète et réelle. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Tov et Ra, le bien et le mal. Le bien, ce qui est pour un cas de joie roux, tout ce qui est dans le reste est dans l'autre côté. Voilà, ça arrête là.